Et c'est parti pour notre journal. 26,2 milliards. Une Polynésienne remporte le plus gros jackpot de l'histoire.
C'est tout simplement le chiffre de tous les records. Une Polynésienne d'une trentaine d'années a remporté au tirage du 15 octobre dernier le plus gros gain jamais atteint aux Fénois sur le territoire français ou même dans l'ensemble des 9 pays qui composent la communauté Euromillion. Un jackpot de 220 millions d'euros, soit plus de 26,25 milliards de francs gagnés, avec une mise de 2125 francs sur un ticket flash de 5 grilles et 2 étoiles achetées sur Tahiti. Écoutez le directeur général de la Pacifique des Jeux, Thierry Gabary.
Elle a joué pour la première fois, ce qui est assez exceptionnel. Hein. C'est la première fois de sa vie qu'elle jouait. Elle gagne. Et à ce moment-là, elle me dit, bah, évidemment, la première personne à qui j'ai pensé, c'est mon papy. C'est quelqu'un qui est très spontané, qui a beaucoup de valeurs très fortes, hein, vraiment très, très ancrées, qui est bien entouré aussi. Donc ça, c'est vraiment très, très important. J'ai trouvé, oui, touchante. Quand on gagne une somme comme ça, il y a des choses qui sont très intimes, qui se livrent, parce que ça interroge le rapport au bonheur, à la chance. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont revisitées.
C'était la première fois que la jeune femme jouait à l'Euromillion, a-t-elle confié à la Pacifique des Jeux lors du paiement. Écoutez Isabelle Césari, responsable du groupe FDJ.
C'est le plus gros gain historique de la Française des Jeux et de la communauté Euromillion, c'est-à-dire tous les pays qui participent à ce jeu Euromillion. C'est un record, c'est du jamais vu, imaginé à l'échelle de la Polynésie encore plus. La Polynésie est en tête en nombre de gagnants de rang 1 par habitant, de la même manière au niveau de toute la communauté Euromillion. Les Polynésiens sont moins joueurs que la moyenne mondiale, et on peut même dire qu'ils sont moins joueurs que les métropolitains, dans la mesure où ici, ils ne jouent qu'à l'offre de la Pacifique des Jeux, qui est une offre encadrée, canalisée, et qu'il n'y a pas d'offre ni de paris sportifs, ni de casinos, ni de PMU par exemple.
Et la jeune femme forcément a des projets, elle rêve de voyager, j'ai envie de parcourir le monde avec ma famille et notamment découvrir la neige que je n'ai jamais vue, a déclaré la gagnante. Elle souhaite aussi investir dans l'immobilier et s'acheter un pied-à-terre sur tous les continents. Et forcément, la nouvelle a fait réagir la population ce matin. Beaucoup sont très envieux, écoutez les réactions.
Franchement, d'abord, bravo à elle, enfin, tant mieux pour elle, c'est cool. Enfin, genre 26 milliards, c'est pas rien, c'est clair que c'est conséquent. Je pense qu'elle pourra bien en profiter, ouais, ça c'est sûr.
Moi, j'aurais fait plein de choses, mais ce que j'espère qu'elle va faire pour le territoire, c'est pouvoir loger tous les SDF du territoire. Il n'y en a pas beaucoup avec 26 milliards, elle a largement de quoi faire. Et les SDF, ils s'occuperont de tous les animaux errants. Comme ça, on fait une pierre deux coups.
Des témoignages recueillis par Torea Combe.
Affaire Théron, le procès renvoyé au 4 novembre.
Le procès du docteur Théron pour des faits de violence aggravés envers un huissier de justice qui devait se tenir aujourd'hui a finalement été renvoyé à cette date, le 4 novembre. Absent à l'audience, pour raison médicale, le docteur était représenté par 5 avocats qui ont demandé le renvoi de l'affaire, avançant le manque de temps pour se concerter avec leur client pour préparer sa défense. Si la date choisie, le 4 novembre, montre que la justice veut régler cette affaire rapidement au vu du retentissement médiatique, Maître Cross, l'un des défenseurs du docteur, voit dans le choix de cette date rapprochée une atteinte aux droits de la défense. Écoutez-le.
On ne comprend pas cette précipitation à vouloir juger ce dossier au niveau du tribunal. Pour nous, il y a déjà une atteinte aux droits de la défense. On avait demandé quand même un certain délai. On s'était un petit peu plus ou moins mis d'accord sur une date au mois de janvier, ce qui nous aurait permis en tout cas de bien travailler le dossier parce que nous avons quand même des moyens de nullité à soulever au niveau de la garde à vue. On trouve que fixer une audience, même pas une semaine, parce qu'en plus on est dans le cadre d'un long week-end, je veux dire, le 2, on va se rencontrer, il faut qu'on dépose écritures le 4 novembre, c'est-à-dire 3 jours après. Je veux dire, non, c'est pas sérieux.
Maître Cross au micro de Pascal Bastianaggi.
Et l'affaire du tonnier maintenant, ce tonnier chinois, l'armateur chinois a réglé la caution de 150 millions.
Le propriétaire du tonnier échoué à Nuanurunga a effectué le versement de la caution de 150 millions exigée par le tribunal pour autoriser la levée de la saisie conservatoire sur son autre tonnier immobilisé dans le port de Papeete. La somme est arrivée ce matin sur le compte ouvert à cet effet par Maître Piriou qui défend les intérêts de la Polynésie française dans cette affaire. L'argent servira, le cas échéant, à financer tout ou partie des opérations de démantèlement du navire échoué. Si d'aventure le propriétaire ne devait pas s'acquitter de ses obligations, le tonnier bloqué est donc autorisé à quitter le port de Papeete et à regagner les eaux internationales.
Et le cannabis thérapeutique, maintenant, Nicole Sanquer demande un discours franc.
Nicole Sanquer voit dans l'avis défavorable rendu par le CESEC sur sa proposition de loi autorisant l'expérimentation de l'usage médical du cannabis un acte politique. L'élu affirme avoir transformé des engagements oraux en vrai acte. Face aux oppositions de la quatrième institution, elle indique que le pays peut très bien amender cette loi et que la délibération qui répondra aux questions du CESEC doit être élaborée avec le gouvernement et constitue l'étape suivante. Écoutez-la.
Moi, je pense, puisque j'ai eu des questions au CESEC me reprochant de venir sur un sujet où Mouité Bruderson s'était déjà exprimé, où le gouvernement parle depuis 2 ans d'une réforme, et en fait, on me reprochait d'intervenir dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il y a un petit côté politique dans l'examen du texte. Mais il y a un texte qui est prêt, qui va donner une vraie réponse à tous ces malades qui sont en attente. Et le vote de cette loi, c'est de transformer les engagements oraux en vrais actes.
Des propos recueillis par la rédaction de Radio 1.
Plus d'un an et demi après le début de la crise Covid, toujours difficile d'acheter une bouteille de gaz.
Dans les stations-service, les directives sont très claires. On échange une bouteille de gaz pleine uniquement contre une bouteille vide, impossible a priori, donc d'acheter une nouvelle bouteille pour le moment. C'est écrit noir sur blanc dans plusieurs établissements. Comment faire alors si on aménage ? Par exemple, les grandes stations-service acceptent de vendre de nouvelles bouteilles seulement si leur stock leur permet. Et suivant la situation du client, pour rappel, c'est le comportement de certains particuliers qui a provoqué la pénurie. Pris de panique, ils ont multiplié les consignes stockées chez eux. Entre-temps, la société Gaz de Tahiti aurait pris des mesures pour augmenter son stock de consignes et en pouvoir circuler des bouteilles neuves depuis le 4 octobre et jusqu'au 31 décembre. Gaz de Tahiti récupère gratuitement les consignes que les particuliers souhaitent déconsigner à domicile. Après avoir contrôlé l'intégralité des bouteilles, le montant de la consigne est remboursé aux particuliers. En attendant, il faut compter sur la bonne foi des consommateurs et bien sûr sur la bienveillance des gérants de stations de service pour être servis. Voilà pour notre journal de midi. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On passe à présent à l'écoute de votre répondeur.